by Tendance Ouest. Des bouquins dans les poches, Élodie Laval.
Bonjour chers lecteurs, je vous propose aujourd'hui d'aller à la rencontre d'un célèbre auteur de best-sellers qui vit en Normandie, Michel Bussy. Cette année, il signe encore un nouveau roman et choisit de surprendre son lecteur en nous proposant de suivre une enquête sur la disparition de Saint-Exupéry, le 31 juillet 1944 au large de la Corse. Un an avant sa mort, l'écrivain et aviateur Saint-Exupéry rédige le fameux conte philosophique Le Petit Prince, le seul de ses livres destiné au jeune public. Michel Bussy, dans ce roman baptisé Code 612, Qui a tué le Petit Prince, établit des similitudes entre la mort du Petit Prince et la disparition de Saint-Exupéry. Le Petit Prince ne serait-il pas un testament secret à qui sait le décoder ? C'est sur ce postulat que commence ce roman qui tient en haleine. Michel Bussy se confie à Tendance Ouest. Bonjour Michel Bussy, votre nouveau roman est une énigme autour de la mort du Petit Prince et de la disparition de son auteur Saint-Exupéry. Quels sont les souvenirs que vous gardez de vos premières lectures du Petit Prince ?
Eh bien, je crois que d'abord je l'ai entendu, je l'ai écouté sur un vieux vinyle lu par Gérard Philippe, comme beaucoup d'enfants de ma génération, et puis après je l'ai relu à l'adolescence, et c'est je pense là que j'ai vraiment découvert le mystère autour du Petit Prince, en tout cas ce qui en fait un conte pas si simple à décrypter.
Et quels sont les souvenirs que vous gardez de vos toutes premières lectures du Petit Prince, ou de vos premières auditions en l'occurrence ?
Mais en fait, je pense que c'était un passage presque obligé. Jeune, je dirais avant 10 ans, je pense qu'on a du mal à comprendre la signification du réel du Petit Prince. Donc à la fois, c'était, quand je dis un passage obligé, c'est que tout le monde voit la silhouette du Petit Prince, a entendu parler du renard, de ces quelques phrases, mais ça va pas plus loin. Donc je dirais que je connaissais le Petit Prince, mais c'est vraiment à l'adolescence que je suis devenu fan.
Qu'est-ce qui vous touchait enfant lorsque vous lisiez le Petit Prince ?
Plutôt à l'adolescence, parce que comme je dis, enfant, c'était un petit peu un conte comme un autre autour du Chaperon Rouge ou des Walt Disney. Donc je pense pas que je faisais complètement la différence entre le Petit Prince et d'autres personnages de France. Et par contre, à l'adolescence, en le relisant, là, c'est vrai qu'il y avait quelque chose de radicalement différent, ne serait-ce que cette fin étonnante où le Petit Prince se fait mordre par un serpent et donc déclare qu'il va mourir, qu'il va disparaître, on ne retrouve pas son corps. Et donc une fin assez ouverte où on ne sait pas vraiment ce que le Petit Prince est devenu. Et puis plus on est adulte, plus on se dit que ce dont nous parle Saint-Exupéry, c'est la mort et c'est l'absence. Voilà, et donc il y a quelque chose d'assez triste, d'assez mélancolique dans ce roman. Évidemment, heureusement, les enfants, en tout cas avant 10 ans, connaissent assez peu cette mélancolie, en tout cas pour la plupart, donc passent à côté de cette dimension-là.
Donc pour vous, le sujet principal du Petit Prince, ça reste la référence à la mort ?
Le thème récurrent du Petit Prince, pour moi, c'est plutôt le départ, l'absence, le vide. C'est-à-dire que le Petit Prince commence à quitter sa rose pour aller découvrir le monde. Puis ensuite, le renard lui apprend effectivement l'amitié, mais aussi le quitte. Et puis après, c'est le Petit Prince lui-même qui quitte l'aviateur. Donc c'est une série d'abandons. Et le Petit Prince parle en permanence de l'absence, du vide, du souvenir, de l'espoir, mais tout ça marqué par le vide. Et donc c'est à la fois quelque chose qui peut apparaître très triste, très mélancolique, mais c'est aussi quelque chose qui est plein d'espoir, qui est très consolant, parce que, évidemment, c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de gens aiment le Petit Prince, notamment quand connaissent une disparition dans leur vie. C'est cette métaphore de l'étoile dans le ciel. C'est que le premier dessin du Petit Prince, c'est un désert vide, avec un ciel vide, et puis le dernier dessin, c'est ce même désert, tout aussi donc désert, mais avec juste une étoile dans le ciel. Évidemment, cette étoile, elle peut peupler tout l'univers parce que c'est l'étoile du souvenir ou c'est l'étoile de l'espoir. Quoi. C'est à la fois un livre très triste et à la fois un livre plein d'espoir. Donc évidemment, quand on a 10 ans ou moins de 10 ans, ce ne sont pas des notions qu'on aborde de la même façon.
Est-ce que pour vous, à l'âge adulte, Le Petit Prince a été un livre de réconfort ? Est-ce que Le Petit Prince a fait écho à des étapes particulières de votre vie adulte ?
Oui, je pense que c'est, oui, clairement, un livre de réconfort, parce que, en ce sens où il donne un sens au vide, où il donne un sens à l'absence, alors c'est à la fois presque un livre de développement personnel, comme il y en a beaucoup aujourd'hui, mais je pense que c'est pas que ça, c'est quand même un livre beaucoup plus intime, c'est pas un manuel, c'est pas quelque chose qui donne des conseils, c'est quelque chose de beaucoup plus poétique et de beaucoup, donc du coup, beaucoup plus intime, parce que c'est à chacun de le décrypter. Et donc c'est ça, là, je pense, la force du Petit Prince sur ce qu'on appelait aujourd'hui beaucoup la littérature de consolation, les livres doudous, etc. Je pense que Le Petit Prince, c'est un des premiers livres à avoir ce statut-là auprès d'un certain nombre de lecteurs, mais je pense qu'il les dépasse justement par sa dimension presque mystique, hein, presque par cette dimension tout simplement de conte.
L'avez-vous beaucoup lu à l'âge adulte et relu ? Est-ce que vous l'avez lu aussi à vos enfants ?
Oui, alors je pense que je le connais par cœur, ou je l'ai lu à mes enfants, mais une nouvelle fois, c'est pas. Je pense qu'à la fois. En plus, il y a le dessin animé qui est arrivé, etc. Mais je pense qu'une nouvelle fois, c'est pas forcément les jeunes enfants qui vont forcément apprécier directement ce conte. Et je pense que c'est un conte qu'il faut aussi découvrir tout seul. L'adolescence, c'est pas forcément le moment où on écoute le plus ses parents. Il y a une grande littérature jeunesse aujourd'hui qui permet aux parents de dire beaucoup de choses à leurs enfants, mais je pense pas que Le Petit Prince rentre pleinement dans ce là-dessus, même si bien sûr, je pense que beaucoup de parents peuvent lire ou faire écouter Le Petit Prince, c'est très court, voilà. Mais je pense vraiment que c'est un livre qu'on redécouvre ou pas d'ailleurs adulte. Et d'ailleurs, souvent, ce que je constate avec ce roman-là, c'est que beaucoup d'adultes, en fait, l'ont lu très jeune et n'ont pas du tout relu depuis. Donc, on a un souvenir comme ça, un peu flou avec les planètes, avec les images. Bon. Classique, mais ne l'ont pas relu. Et généralement, quand ils s'y replongent, ils sont très surpris par la nature du Petit Prince, par sa profondeur. Ils ont gardé souvent une image un petit peu mièvre, notamment parce qu'en fait, ce dont on se souvient peut-être plus que l'histoire entière, c'est quelques phrases, évidemment, dessine-moi un mouton, ne vois bien qu'avec le cœur, etc. Et surtout des photos, enfin des images et dessins, quoi. Donc évidemment, Le Petit Prince, la planète, la rose, etc. Donc ce sont des choses très, très pastelles, très douces. Et qui sont souvent en contraste avec quand on relit Le Petit Prince adulte, quand on le relit, évidemment, c'est assez différent finalement de cette image assez lisse qu'on en garde.
Comment avez-vous eu l'idée de faire un roman d'enquête inspiré par Le Petit Prince ? Est-ce que c'est un projet de longue date ?
Oui, c'est un projet de très longue date et je pense qu'il y a une forme d'évidence, c'est un projet qui remonte à plus de 20 ans et il y a une forme d'évidence, c'est-à-dire quand je me suis dit, mais oui, en fait, la question à se poser, c'est qui a tué Le Petit Prince ? Et Le Petit Prince peut aussi être lu comme un récit policier. Il s'achève sur une mort, sur un crime, inexpliqué, sur la disparition d'un corps. Et donc, évidemment, tout de suite, en mettant ça en parallèle avec la disparition de Saint-Ex, j'ai senti que je tenais un angle original qui m'a passionné. Et là, je me suis passionné pour cette question, évidemment, mais aussi pour remplir mon enquête, en fait. Hein. Là, j'ai vraiment, c'était une enquête de longue haleine.
Tout à fait. Comment avez-vous d'ailleurs travaillé à la conception du roman ? Est-ce que vous connaissiez déjà bien les romans de Saint-Ex avant d'entamer le projet ? Est-ce que vous les avez relus au moment de les travailler ? Et puis lesquels ont particulièrement retenu votre attention ?
Oui, tout ça, c'est-à-dire que je les avais lus, je les ai relus, à la fois les livres de Saint-Ex, mais aussi toute sa correspondance, une grande partie de sa correspondance, pour l'essentiel édité. J'ai lu aussi beaucoup d'analyses sur Saint-Ex, alors d'analyses sur sa disparition, il y a eu beaucoup de livres, d'analyses sur le Petit Prince, puisqu'il y a aussi beaucoup de livres, notamment de philosophie, sur l'analyse du Petit Prince, donc j'ai... Et puis sur le phénomène littéraire lui-même, qui est unique. Donc, j'ai rassemblé énormément de documentation et à chaque fois que je trouvais ou qu'était publié un nouveau livre, je le lisais, je le décortiquais et je le rangeais dans les cases de mes différentes hypothèses. C'est un travail de recherche que d'ailleurs j'étais habitué à faire en tant qu'universitaire. Donc il y avait ce travail de documentation et d'organisation dans une démonstration. Donc j'avais ma démonstration en tête et après, j'emboîte les indices et les pièces du puzzle au fur et à mesure que je les lisais ou qu'elles se découvraient. Donc oui, ça a été un travail long et passionnant comme tout travail d'enquête.
Ce roman exigeait beaucoup de recherches préparatoires. Est-ce qu'il vous a pris beaucoup plus de temps de travail que les précédents ?
Non, je pense pas qu'il m'ait demandé plus de temps de travail parce que c'était sur un temps long. Donc en fait, ce qu'on dit sur 20 ans, donc un livre ou deux par an, je le lisais, je rangeais ça. Donc j'avais quand même beaucoup, beaucoup de pages de notes. C'est même plus peut-être que le roman, mais c'est une sorte de passion comme ça que j'ai développé. Et donc après, l'écriture en lui-même du roman n'a pas été compliquée dans le sens où j'avais déjà énormément de matière, peut-être même trop de matière. D'ailleurs, le plus difficile, c'était de couper dans les multiples citations de Saint-Exupéry. La première version était beaucoup plus chargée. Et puis, j'ai élagué pour que ça reste fluide et qu'il fallait que je coupe. Parce que, évidemment, j'avais envie de tout citer, de donner tous les détails. Enfin, évidemment, avec chaque livre, je trouvais des hommes en terre de nuit. Enfin, il y avait plein de choses que j'avais pas envie de laisser de côté. Et puis, au final, il fallait le faire parce qu'il fallait que ça reste quelque chose de, il fallait que ça reste un roman. Donc, il s'agissait pas de paraphraser Saint-Exupéry ou de mettre 5 citations par page, quoi. Donc voilà, donc du coup, non, c'était relativement simple à écrire, je trouve, parce que j'avais beaucoup, beaucoup de matière. Et ensuite, il s'agissait d'écrire de façon poétique, de façon amusée. Donc, ce décalage, pour moi, était assez naturel, finalement. Enfin, une fois que j'avais mes personnages, mes planètes, en fait, bon, c'est l'avantage de l'écriture comme ça, poétique, c'est que... Enfin, j'ai toujours pensé que c'était plus facile d'écrire de façon littéraire, poétique, finalement, sans grande contrainte, que d'écrire un roman policier... extrêmement verrouillé, avec de l'action. Alors, j'ai toujours pensé que c'était plus facile de décrire les états d'âme d'une femme amoureuse que de décrire une poursuite de voiture, quoi. Voilà. Là, pour le coup, je me suis vraiment fait plaisir d'un point de vue littéraire, parce que je pouvais me lâcher. J'avais Saint-Exupéry derrière, Le Petit Prince. Il y avait beaucoup de thèmes, justement, qui permettaient, voilà, comme ça, d'être poétique, d'être innovant dans les termes, d'être comme ça, léger. Alors, quand on écrit un roman policier, bah, voilà, il faut respecter l'intrigue, la tension. C'est quelque chose dont il faut se mettre un peu plus en retrait d'un point de vue littéraire, parfois, pour se mettre au service de l'intrigue.
Dans le roman, vous évoquez la version originale du manuscrit conservé à la Morgan Library, à New York. La version manuscrite, elle diffère vraiment beaucoup de la version éditée?
Oui, alors en fait, c'est une version que tout le monde peut consulter, hein, d'une part parce qu'elle a été éditée en facsimilé. Bon, c'est un gros ouvrage, c'est cher, mais en tout cas, on peut le trouver. Et donc, on a ce fameux manuscrit original, il est disponible. Alors, et on a beaucoup d'autres dessins qui n'ont pas été retenus pour Le Petit Prince. On a des commentaires de Saint-Exupéry, on a des phrases raturées, enfin, on a tout ça. Alors, tout n'est pas toujours lisible, mais évidemment, beaucoup d'autres que moi se sont penchés sur ce manuscrit. Par exemple, dans la Pléiade, la version de Saint-Exupéry sur la Pléiade, on a par exemple beaucoup de textes qui sont repris, hein, qui ont été déchiffrés. Donc, bon, en cherchant bien, on trouve ces différentes versions. Et oui, c'est bluffant parce que il y a souvent beaucoup de versions antérieures, notamment les chapitres les plus connus, hein, comme celui du renard, par exemple, même celui de la mort, mais celui du renard où Saint-Exupéry a fait beaucoup de versions antérieures avant d'arriver à arrêter ces petites phrases ciselées. Il disait même qu'il avait parfois écrit 50 versions avant d'atteindre l'épure d'une phrase très simple. Donc ça, oui, c'était une très belle découverte et ça fait partie intégrante du roman que d'avoir repris ce manuscrit. D'ailleurs, je crois que le manuscrit original sera exposé, je crois que c'est au Grand Palais, en 2022. Donc pour la première fois, il va quitter New York.
Autre question plutôt technique, comment se pose la question des droits d'auteur? Est-ce que le roman est passé dans le domaine public? Et puis, est-ce que vous avez pu échanger avec les descendants de la famille de Saint-Exupéry?
Alors, le roman n'est pas dans le domaine public en France. Il est dans la plupart des pays du monde, mais pas en France et quelques autres pays francophones, pour cette raison, hein, que Saint-Ex est mort pour la France, donc ça fait une petite rallonge, et je crois que ça sera en 2032, je crois que le texte tombera dans le domaine public, ce qui signifiait clairement qu'il fallait l'accord des ayants droit de Saint-Exupéry, en particulier d'Olivier Daguet, pour publier ce livre, hein. Sinon, voilà, je cite, enfin, non seulement je cite Saint-Exupéry, mais j'utilise clairement son œuvre dans le Code 612, donc ses personnages, etc. Bon, donc il fallait l'accord, là, il n'y avait pas de discussion possible, et donc, bah, voilà, je l'ai envoyé avec Olivier Daguet, et j'ai reçu un accueil extrêmement chaleureux de sa part. Je pense qu'il a compris la sincérité de la démarche, voilà, de mon amour pour Le Petit Prince. Enfin, comme il dit souvent, c'est une famille, et il m'a accepté dans la famille du Petit Prince, et il n'accepte pas tout le monde, hein. Je pense qu'ils le font au coup de cœur, hein. Enfin, il faut qu'effectivement qu'ils sentent que c'est pas un calcul, voilà, non seulement pour faire de l'argent, pour faire sa propre promotion, etc. Je pense qu'ils sentent qu'il y a quelque chose de plus ancré. Et bon, c'est vrai que j'avais souvent cité Le Petit Prince dans mes romans, dans mes interviews, enfin, c'est pas quelque chose que j'avais caché. Donc ça s'est fait très naturellement, très sympathiquement, mais j'avoue qu'avant, c'est pour ça que ce projet à traîner, hein. C'est-à-dire que je ne voulais pas le proposer aux ayants droit de Saint-Exupéry avant que ce projet soit abouti, hein, qu'il soit à mes yeux parfait, parce que j'avais évidemment une grande crainte qu'il n'accepte pas cette idée même, hein, de presque le titre, hein, qui a tué Le Petit Prince, qui était quand même un peu provocante par rapport à la plupart de ce qui existe sur Le Petit Prince, qui est quand même souvent vivre avec Le Petit Prince, sauver la planète avec Le Petit Prince, être heureux avec Le Petit Prince. Enfin, on est quand même souvent sur des choses très positives, évidemment. Hein. Mettre plutôt le serpent en couverture avec Qui a tué Le Petit Prince, c'était un angle différent, mais je crois que justement, c'est ce qui les a séduits, c'est que c'était un regard justement qui était nouveau, j'espère, et du coup qui va amener, qui amène déjà un certain nombre de lecteurs qui n'avaient pas pensé relire Le Petit Prince à s'y pencher, parce que justement, j'essaye de dépasser ce côté un petit peu trop consensuel du Petit Prince parfois, en amenant les lecteurs à se poser des questions.
Saint-Exupéry n'a pas eu d'enfant. Est-ce que vous pouvez resituer pour nos lecteurs le lien entre Olivier Daguet et Saint-Exupéry ?
Eh bien, c'est son arrière-petit-neveu, son petit-neveu.
Vous êtes un auteur très prolifique. Le dernier livre en date a été publié il y a moins d'un an. On peut dire qu'en ce moment, vous publiez presque 2 livres par an ?
Oui, même plus avec les choses pour enfants, oui.
Est-ce que vous avez déjà d'autres manuscrits en relecture ? Et quand est-ce que nous aurons la chance de découvrir le prochain livre de Michel Bussy ?
Le prochain est déjà programmé, donc ce sera début février, Nouvelle Babel.
Quelques pistes sur le sujet choisi pour Nouvelle Babel ?
C'est un livre où on va beaucoup, beaucoup voyager. Voilà, c'est un livre policier, un livre à suspense, où on va beaucoup voyager, avec une vraie originalité dans le thème. Voilà.
Merci beaucoup Michel Bussy pour cette interview.
Merci beaucoup à vous.
Le roman est publié aux Presses de la Cité et il est déjà disponible en librairie. Je vous invite donc à redécouvrir Le Petit Prince à travers les yeux de Michel Bussy, à vous plonger dans l'envers du décor et à explorer sa face cachée. Bonne lecture avec des bouquins dans les poches.
Podcast by Tendance Ouest. Podcast by Tendance Ouest.